Mafia, anatomie d'une pieuvre.
Alors que la DZ Mafia accroît son emprise dans le sud de la France, retour sur l'histoire de la mafia. Quoi de commun avec sa naissance en Sicile au XIXe siècle, son pouvoir aux États-Unis dans l'entre-deux-guerres, ou en Chine et au Japon?
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'économiste Clotilde Champerrache.
Épisode 6, 2025, la DZ Mafia. Une mafia?
La DZ Mafia fait sans doute entre 5 et 6 milliards d'euros d'argent liquide. Gérald Darmanin, Marseille, novembre 2025. On achève avec aujourd'hui notre conversation, Clotilde Champerrache. La DZ Mafia, le mot mafia, est assumé. Vous en souriez, pourquoi ?
Bah, ce qui est intéressant dans ce monde criminel, c'est qu'ils se regardent beaucoup les uns les autres.
Ouais.
Et il y a une imagerie, y compris celle du cinéma. Hein. Vous avez des criminels qui regardent les séries, qui regardent les films et qui...
Fantasme.
Oui, y compris les mafieux siciliens eux-mêmes. Hein. On sait qu'il y en a qui... y avait un chef camorriste à Naples qui s'était fait construire une villa sur le modèle de celle qu'on voit dans Scarface.
Non.
Si.
Parce que j'ai vu une série géniale, The Offer, sur la fabrication du film, Le Parrain, et on voit que les mafieux sont pas trop, ils aiment pas trop quand même qu'on raconte leur histoire.
Ben ça dépend. Ils aiment bien que l'image soit positive. Après, on dit aussi que les Yakuza, quand ils ont vu les films de mafia, ils ont trouvé que
c'était cool.
Non, mais le costume avec le chapeau, c'était très chic. Et ils ont un peu copié cette image-là. Donc, il y a des interactions entre les deux mondes.
Et c'est pour ça que ce nom des aides mafia s'est imposé, selon vous ?
Alors, ce qui est intéressant par rapport, par exemple, à la mocro-mafia aux Pays-Bas, c'est qu'effectivement...
Très puissante.
Oui, de moins en moins, parce qu'en fait, on a arrêté quand même des gens importants. Mais c'est justement une configuration qui est particulière. Là, c'est la DZ Mafia qui s'est choisi ce nom-là. Donc, DZ, c'est pour Algérie. Et mafia...
Pour mafia.
Oui, mais c'est une volonté de s'imposer aussi en termes marketing dans le monde criminel, c'est-à-dire qu'ils s'intronisent mafia, ça ne veut pas dire qu'ils sont une mafia réellement. Je comparais avec la mocro-mafia néerlandaise.
Là, c'est d'origine marocaine.
Alors, mocro, oui, c'est pour mocro, mais ce qui est très intéressant, c'est que la mocro-mafia, c'est le nom donné par les journalistes à une nébuleuse criminelle, avec notamment un de ses chefs qui est Redouane Taghi, qui, lui, appelait sa bande, au départ, les anges de la mort. Donc, on n'est pas du tout dans une dimension mafieuse. On est, encore une fois, dans purement rejet de l'ordre établi. Et les journalistes vont utiliser le terme de mocro-mafia pour désigner des nébuleuses criminelles qui, au départ, ont une origine maghrébine. Alors, première ou deuxième génération, enfin, ça dépend des personnes. À l'heure actuelle, c'est beaucoup plus mélangé que ça. Et ça va plaire aux criminels qui vont reprendre ce terme de mocro-mafia, mais presque comme une flatterie. Donc c'est intéressant de voir comment la façon de se nommer ou d'être nommé peut valoriser une organisation criminelle. Mais on ne peut pas parler de mafia.
Alors pourquoi ? Pourquoi ce n'est pas une mafia ? Pourquoi la DZ Mafia n'est pas une mafia selon vous ?
Parce que si on reprend la définition juridique italienne, on n'a pas l'ensemble des critères qui sont constitutifs d'une mafia.
Il y a quand même de l'intimidation, il y a quand même de l'omerta, il y a du racket, il y a du trafic.
Oui, mais alors ça, c'est des choses que peuvent faire d'autres organisations criminelles. C'est-à-dire que les mafias...
Qu'est-ce qui manque alors ?
Les mafias, elles n'inventent pas la corruption, le racket, etc. Les mafias, elles sont, dès leur naissance, positionnées aussi dans la sphère légale. Et elles sont multi-activités aussi, tout de suite. Avec la DZ Mafia, on n'a pas ça. Alors, ce qu'on peut avoir, et c'est ce qui est préoccupant à l'heure actuelle, c'est une diffusion de la méthode mafieuse. À défaut d'être une organisation mafieuse, on va copier ce que fait la mafia, parce qu'il y a des phénomènes, encore une fois, d'émulation. C'est le modèle gagnant, hein, les mafias, c'est ce vers quoi on aspire, ou ce qu'on aimerait être. C'est justement au départ la violence, l'intimidation, même si les mafias italiennes sont nettement moins dans la violence parce qu'elles sont suffisamment implantées pour ne plus avoir besoin de recourir à la violence ostensible. La menace suffit ou la réputation. Et puis, c'est cette volonté de se diversifier. Alors, les mafias le sont dès le départ. La DZ Mafia, on voit qu'elle essaie aussi de racketter, d'étendre, d'exercer une emprise territoriale. Ça aussi, c'est très mafieux. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait, à l'heure actuelle, une infiltration de l'économie légale au sens de contrôle territorial exercé via ces entreprises. On n'a pas encore, alors peut-être que ça va venir, hein, ou que c'est en cours et pas encore identifié, on n'a pas d'investissement dans le secteur du BTP. Parce que ça, le secteur du BTP, c'est quelque chose qui est très intéressant pour toute mafia, qu'on va retrouver aussi bien en Italie qu'au Japon et en Chine. Le BTP, c'est déjà recruter beaucoup de main-d'œuvre, de la main-d'œuvre pas forcément très qualifiée. On recrute des gens peu qualifiés à qui on va pouvoir demander des services en dehors des heures aussi de travail. Mm-hmm. Distribuer des revenus, créer une légitimité sociale. Et puis, bah, y a la connexion avec la sphère politique via ces marchés publics. Donc le BTP, c'est un secteur vraiment névralgique. Et en plus, il suffit d'infiltrer quelques activités clés pour conditionner un peu tout le secteur. La commercialisation du béton, les engins de terrassement et de déblaiement, ça vous immobilise potentiellement un chantier. Donc, vous pouvez faire pression sur les autres entreprises à partir de là.
Et ça, on ne l'a pas encore en France ?
Non, on est encore dans la naïveté. On est beaucoup dans une logique où on considère qu'il y a d'un côté le monde illégal, d'un côté le monde légal. On est au début de la prise de conscience qu'il y a des organisations criminelles qui ne sont pas que dans le profit, qui vont aussi chercher le pouvoir. Et c'est un peu ce que la DZ Mafia, peut-être sans le vouloir, a mis en évidence avec cette logique d'emprise territoriale, de volonté de conditionner un territoire.
Ce territoire de la DZ Mafia, c'est quoi aujourd'hui ?
Alors ça, c'est très compliqué. On sait que c'est Marseille, on sait qu'il y a des remontées aussi. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est que le monde criminel, contrairement à l'image qu'on en a, c'est pas uniquement des règlements de compte. C'est aussi beaucoup de coopération, de partage, d'alliance. Et donc, même si on identifie des membres de la DZ Mafia au-delà de Marseille, ça ne veut pas forcément dire que le territoire est contrôlé par la DZ Mafia. Et ce qu'on a observé aussi pour la DZ Mafia, c'est un peu un phénomène de franchise. Et c'est là qu'on sort de l'organisation criminelle façon mafieuse, où il y a une affiliation, où on ne peut pas se déclarer mafieux, on est choisi par l'organisation criminelle. Là, on a des criminels qui se revendiquent de la DZ Mafia parce que la DZ Mafia fait peur, mais sans être affiliés véritablement à cette organisation-là.
Mais est-ce que ça, ça dit sa force ou sa faiblesse à la DZ Mafia ?
Alors, je pense que la faiblesse de la DZ Mafia, c'est ce rapport débridé à la violence. Et qui est très différente de ce que pratiquent les mafias actuellement. La DZ Mafia se comporte plus comme les narcos sud-américains, c'est-à-dire de la violence. On abat les gens en pleine rue, on fait des victimes innocentes. Donc, violence indiscriminée, sachant que ça attire, encore une fois, la réponse de l'État. Le trafic de stupéfiants, c'est quelque chose qui monte depuis des années. Les chercheurs le voyaient, l'Office français des toxicomanies identifiait cette montée, année après année, de la consommation de stupéfiants. Mais tant que ça ne s'accompagnait pas de violence et de défis à l'État, comme on a pu l'avoir en France du côté de Marseille, ou en Belgique et aux Pays-Bas avec la mocromafia, on a un peu laissé circuler les stupéfiants sans véritablement s'y attaquer.
Dans la citation que je donnais, Gérald Darmanin, la DZ Mafia fait sans doute entre 5 et 6 milliards d'euros d'argent liquide. Cet argent, il devient quoi ?
On ne sait pas, on ne sait même pas, quand on saisit des stupéfiants, combien on a saisi par rapport à ce qui circule vraiment. Ce qu'on sait, c'est que déjà, il y a plein de produits stupéfiants différents. Là, on parle beaucoup de la cocaïne, mais y a tous les nouveaux produits de synthèse. Enfin, ils sont très créatifs dans leur offre de stupéfiants. On sait aussi qu'on n'a jamais autant planté de cocaïne qu'actuellement. Donc, l'offre de cocaïne, elle est surabondante. D'où la baisse du prix et une facilité d'accès sur tout le territoire. Le chiffre qui est donné par Gérald Darmanin, c'est un chiffre qui a été donné, si je ne me trompe pas, par l'OFAST, donc l'Office anti-stupéfiants en France, pour le chiffre d'affaires des stupes en France. Donc, ce n'est pas toute la DZ Mafia. Il ne faudrait pas faire croire, justement, ça c'est une des problématiques actuelles, qu'il y a un monopole des stupéfiants en France actuellement. Même si la DZ Mafia semble avoir une part importante, la DZ Mafia, elle est sur le sud de la France principalement. Une des portes d'entrée majeures des stupéfiants en France, c'est Le Havre.
Oui, j'allais y venir justement. Dans le deuxième épisode, vous évoquiez l'importance de tenir les ports. La France, les points de passage des ports sont des points faibles aussi de notre sécurité ?
Oui, mais parce que, mais ça, c'est pas que la France, hein, malheureusement, c'est une faiblesse générale. C'est-à-dire que l'économie a un peu bradé la sécurité au profit d'une vision libérale très optimiste. C'est-à-dire que ce qu'on voulait, c'est que les marchandises circulent le plus vite possible. Et ce gigantisme...
Ça, oui, ça a marché.
Oui, ça marche. Toutes les marchandises circulent extrêmement rapidement. Sur le territoire européen, on est à 1-2% de marchandises contrôlées. Donc ça laisse rentrer énormément de choses. D'ailleurs, pas que les stupéfiants, hein, les armes, les contrefaçons, tout rentre relativement facilement. Les ports sont dans une lutte concurrentielle acharnée. Donc le but, c'est de se présenter déjà avec les infrastructures les plus massives possibles pour traiter le plus rapidement les conteneurs. Et le contrôle douanier dans cette histoire, c'est le grain de sable.
C'est du temps perdu.
Voilà, c'est du temps perdu.
Même si j'ai lu qu'il y avait eu d'intenses progrès de sécurité à Rotterdam qui avaient dévié, par conséquent, le trafic vers chez nous.
Oui, alors c'est le problème aussi de la lutte quand elle n'est pas coordonnée.
Oui, voilà.
C'est que les routes se réadaptent, hein, de même que j'ai parlé du Havre, mais les ports secondaires sont aussi ciblés parce qu'on sait qu'ils sont moins sujets à des contrôles. Donc, Montoir de Bretagne, il y a de la drogue qui arrive par Montoir de Bretagne. Il y a plein de voies d'accès. En plus, comme il y a plusieurs organisations criminelles, elles ont aussi leur personnel placé à tel ou tel endroit.
On est encore aujourd'hui, on l'a compris, hein, dans un crime organisé lié essentiellement à la drogue. Que faut-il surveiller dans les mois, les années à venir pour éviter que cela devienne une véritable mafia ?
Je ne sais pas si il ne faut pas que dès le départ, il y ait certaines caractéristiques qui soient en place. Parce que quand on étudie les trois grandes mafias italiennes, hein, la sicilienne, la calabraise, qui est extrêmement préoccupante, la napolitaine, et puis les yakuza au Japon, les triades en Chine, on voit quand même que dès le début, le positionnement est très spécifique. Donc, naissance de nouvelles mafias, je ne suis pas certaine. Par contre, encore une fois, cette méthode mafieuse, elle se diffuse. Et puis, on parle beaucoup des stupéfiants, mais il y a plein d'activités illégales. La contrebande de tabac, c'est quelque chose qui explose sur notre territoire. Il y a toute la traite des êtres humains, il y a la criminalité environnementale. Enfin, il y a un foisonnement d'activités auxquelles on ne prête pas attention. Et justement, s'intéresser plutôt aux organisations criminelles, identifier leurs contours, comment elles se positionnent les unes par rapport aux autres, c'est sans doute plus pertinent pour l'avenir que de se focaliser sur les stupes exclusivement. Surtout que Europol nous dit que de plus en plus d'organisations criminelles sont polyactivités. Donc même si on les frappe, si on arrive à leur faire du mal au niveau des stupéfiants, elles pourront être présentes et continuer de prospérer avec d'autres trafics.
Merci beaucoup, Clotilde Champéral. Voilà une fin très optimiste pour notre conversation sur ces mafias. On a compris ce qu'était une mafia, ce que n'est pas une mafia, comment une mafia peut disparaître, comment elle peut apparaître, même si vous nous l'avez dit que la dimension culturelle, historique est très importante aussi, et peut-être peut nous préserver de voir apparaître comme ça des mafias, même si on peut être un crime organisé plus dangereux, peut-être même qu'une mafia. Est-ce que j'ai bien résumé ?
Et que les mafias italiennes peuvent être présentes sur notre territoire aussi et chercher à développer une emprise mafieuse sur notre territoire.
Absolument. Merci beaucoup, Clotilde Champéral.
Merci.
Mafia, anatomie d'une pieuvre est un podcast original de France Inter.